20h, 21h, Time Food spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue en ce mardi 6 février à la suite des informés d'Adil Farkan et toute son équipe qu'on pourra retrouver dès demain sur l'antenne à 19h jusqu'à 20h. Allez, la plage horaire 20h, 21h, c'est Time Food spécial Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, ce soir, on va parler un peu de cette Coupe de France. Et oui, on joue la Coupe de France ce soir, sans oublier le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, on rappelle les matchs de demain à 18h, le Nigeria qui rencontrera les Bafana, les Super Eagles. Demain 18h et aussi à 21h, ça sera les éléphants de la Côte d'Ivoire face aux léopards de la RDC. Voilà, rien que pour vous, on reviendra sur ce carré magique concernant cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et au menu, on parlera aussi un Paris-Brest culinaire, non pas, mais aussi d'Mbappé. Ça fera plaisir en cette Coupe de France au 0153483000. Rien de plus simple pour réagir sur l'antenne de Beurre FM. Allez, sans plus tarder, je vais présenter l'équipe qui m'accompagne.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
C'est le débat du jour. Justement, dans Time Foot spécial Coupe d'Afrique des Nations, qui sera le favori pour ces demi-finales selon vous? C'est la question que l'on se pose et que l'on vous pose ce soir sur l'antenne de Beurre FM, le 0153483000. Sans plus tarder, on va présenter le magnifique plateau qui m'accompagne ce soir. Allez, on a Tariq ce soir avec nous. Bonsoir Tariq.
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde.
Comment ça va, Tariq?
Ça va très bien. Toujours content de vous retrouver, moi, oui. Personnellement.
Tariq, il y avait Boula qui me demandait, je sais pas, c'est peut-être le point info, il s'est trompé, ça doit être Jouba qui nous écoute aussi, peut-être on l'aura Jouba ce soir. Vous voyez, un point info concernant les grèves dans les transports, je sais pas, messieurs, ouais, cette semaine.
Vous avez peur?
Ouais, on a peur. Ouais. Ouais. Non, on nous dit, non, cette semaine ça va.
Tout ira bien. Mais ben ouais. Sûrement, peut-être vous inquiétez avant les JO, ça ouais, c'est autre chose, mais pour l'instant, non.
Du moment que le RER roule, je suis un homme heureux.
RER roule. Justement, les motos pourront plus peut-être rouler la nuit.
Entre 22h et 5h du matin, c'est ça?
C'est la ville de Paris.
C'est ça, entre 5h et 22h.
On sait plus comment on va faire, moi et Vivien, pour entrer après. Ouais, on l'a reconnu, c'est Benji. Bonsoir Benji.
Oui, bah bonjour à tous, bonjour Bilal. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va très bien.
Ouais.
Écoutez, moi, ça va tranquillou. Très heureux de retrouver la Coupe d'Afrique des Nations demain et la Coupe de France. Un programme bien rempli, je sens qu'on va... On va se balader avec plusieurs écrans à partir de 18h, donc ça va être cool pour regarder les matchs et pour pouvoir en parler.
Ah bah ouais, ça c'est pas faux, c'est ça. Vivien, tu en penses quoi, cette Coupe de France? Bonsoir Vivien.
Bonsoir Bilal. Bah oui, en attendant la Coupe d'Afrique, ça fait un peu comme une entrée. Faut rappeler que ça commence dès ce soir avec Sochaux-Rennes, donc voilà, c'est bien de revoir du football, parce que là c'est vrai que... Je commençais un peu à me gratter la tête, pour être honnête ces derniers jours.
Ouais, et c'est pour ça qu'il te reste plus grand chose d'ailleurs.
Voilà, c'est...
Là aussi, c'est la classe ce soir. On a deux réalisateurs, on a la personne. On a Solal, comme chaque soir avec nous, jusqu'à 23h, parce qu'après ça sera 21h, 23h avec Vanessa. Et on a aussi Nabil. Bonsoir Nabil, comment ça va?
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs et auditrices.
C'est super sympa d'avoir. Nous aussi, Nabil, amoureux de sport et pas que. Nabil qui fait cette première à la réalisation ce soir avec Solal et avec nous ici, toute l'équipe de Tapsport.
La dernière. Il est vraiment très très bon et on entendra parler de lui pendant des années.
C'est ça, super sympa. Le Paris Radio Show, justement, c'est en ce moment. Un petit clin d'œil à Giovanni. C'est du 6 au 7 février jusqu'à demain. Voilà, le salon de la radio. Un petit clin d'œil, voilà, toutes les personnes pour y aller. Rien de plus simple de s'y rendre dans le 20e arrondissement de Paris, du côté de la Belle-Illoise. Et voilà, tous nos confrères aussi, une petite pensée, nos confrères et nos consoeurs. Sans plus tarder, c'est la Coupe de France et on va s'attarder cette fois-ci sur justement le premier match de ce soir, 20h45, Benji. C'est les Sochaliens, excusez-moi, qui rencontreront donc les Rennais, vainqueurs sur l'Olympique de Marseille pour ce premier 8e de finale. Que dire là aussi avec Vivien, avec Tariq et toi, Benji?
cette équipe de France. Ouais, on a hâte, comme disait Vivien, on a envie de revoir du football, du football de coupe, que ce soit aussi bien avec la CAN qu'avec la Coupe de France.
Ouais.
Et on commence avec avec deux clubs mythiques quand même. Voilà, avec deux clubs mythiques de cette compétition. Voilà, que ce soit Sochaux ou Rennes, même si on a évidemment une équipe de Rennes qui va se déplacer du côté de Sochaux tant que favori, bien évidemment.
Ouais.
Attention. Que ce soit par l'expérience ou que ce soit évidemment par les joueurs qui vont être sur le terrain, mais c'est aussi le charme de la coupe de voir une équipe de Sochaux qui est capable de faire des bons résultats. Donc non, ça va dépendre aussi de l'effectif que met Rennes en face. On sait que Rennes est en train de remonter aussi tranquillou au championnat après un très très mauvais début de saison. Alors savoir s'ils vont vraiment bien faire tourner leur effectif afin de consolider leur bonne dynamique en championnat, ou si justement ils vont aussi décider de mettre l'équipe type ou quelque chose de très proche face à Sochaux en s'inscrivant dans une dynamique d'un objectif d'aller chercher également cette Coupe de France et de rivaliser plus loin, quoi.
Le premier match ce soir, Sochaux donc contre Rennes, demain 18h30, ça va te plaire, hein, mais c'est un autre choc de la Ligue 1, c'est les Lyonnais en grande forme peut-être face aux Lillois.
Ouais.
Les Lyonnais qui accueillent,
exactement.
Rappelle, hein, avant de donner la parole à Tariq.
C'est demain 18h, voilà, si je dis pas de bêtises, hein, 18h30, voilà, si ce sera en même temps que Nigeria Afrique du Sud, donc j'aurai clairement un double écran pendant ce match de la CAN pour regarder l'Olympique Lyonnais, parce que l'Olympique Lyonnais qui comme on l'a déjà dit autour de cette table a mis les moyens lors de ce mercato, a fait un mercato où il a été très dépensier, c'est le club le plus dépensier d'ailleurs d'Europe sur ce mercato
60 millions,
ouais. C'est ça à peu près, sans toutes les clauses, sans voilà, on compte entre 55 et 65 millions pour ce mercato hivernal pour le moment du côté du club lyonnais, mais un objectif qui est la Coupe de France qui doit être majeur dans la saison des hommes de Pierre Sage, dans le sens où tu es déjà largué en championnat et où si tu as ne serait-ce que l'envie peut-être d'espérer et de faire vibrer tes supporters par une coupe européenne, c'est peut-être le meilleur moyen, si ce n'est le seul, d'aller chercher une compétition européenne, c'est d'aller chercher cette Coupe de France. Et même pour juste terminer, laisser la parole à mes camarades, je vois ce match de Lille comme quelque chose de primordial dans la dynamique de groupe également. Il faut se baser sur le match qui a été bon. Voilà, on peut
une
dire qu'il a été bon.
Coupe d'Europe, ça serait pas mal aussi.
Exactement, mais qui a été bon face à l'OM, on n'a pas été étincelant, mais Marseille a été tellement attendu que voilà.
Lyon a gagné.
On est très content de ce résultat et c'est très correct.
Mais ça fait du bien aux Lyonnais.
Dans le sens de la dynamique, pour moi, si tu perds contre Lille ou que tu fais une contre-performance, ça peut aussi te casser les jambes en te disant voilà, on revenait bien, et même pour remonter en championnat et assurer une place,
un œil
de sauver en Ligue 1. Pour moi, c'est clairement primordial de faire un bon résultat face à
Lyon. Va se relever, et ça, on en est sûr, justement. Moi, le premier dans cette émission. Oui, Tariq, on a Nasser aussi depuis Rome qui aimerait réagir. Il aime beaucoup cette Coupe de France, lui aussi.
Ah, un grand bonjour à Nasser.
On va la voir après.
Moi, je te rejoins à 100% sur ce que tu viens dire, mais il y a quelque chose qui me pose problème, c'est le discours ambiant des entraîneurs, que ça soit Le Sage ou que ça soit même Fonseca, sur le fait qu'ils veulent faire tourner en fait, et moi j'arrive pas à comprendre, parce que tu joues, ils ont pas de Coupe d'Europe, les Lyonnais n'ont pas joué de Coupe d'Europe cette saison. Là pour l'instant, c'est quoi ? Ça fait un match tous les trois jours.
Ouais.
Ils te parlent de faire tourner, alors que pour moi, il y a clairement un titre à aller chercher. C'est par le biais de la Coupe de France aussi que tu donnes des émotions à tes supporters. Et Lyon, par exemple, ça fait quoi ? Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas de titre.
Ah bah ouais, c'était le trophée des champions. Ouais, le trophée des champions en 2012.
Plus de 10 ans. 2013.
Oui, c'est ça. Enfin, Coupe de France, trophée, exactement.
Si tu te permets de dire que tu vas faire tourner, alors que tu sais, là où je te rejoins aussi, c'est qu'en ayant des bons résultats et surtout en faisant des bons parcours en coupe, tu peux faire une bonne dynamique et c'est quelque chose de très important, je pense, pour un groupe comme Lyon ou même pour les Lillois. Hein. Même s'ils sont bien en championnat, je pense que ça peut être une bonne chose d'aller chercher cette Coupe de France.
C'est peut-être parce que je suis porté à Lyonnais, je suis un peu biaisé, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même plus importante cette victoire pour Lyon que pour les Lillois, dans le sens où
une place européenne à la clé. Et c'est pas rien, Benjamin.
Et c'est très important. On a eu des Lyonnais qui étaient très touchés psychologiquement tout le début de saison. Et c'est vraiment cet impact qu'a eu Pierre Sage, a eu ce rôle un peu de psychologue, de remettre un peu les idées claires, que ce soit avec les cadres ou même avec les personnes qui ne sont pas des cadres. On peut penser même à Mohamed El Haroush, qu'on a eu le bonheur de revoir récemment dans le groupe d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, qui avait des gros soucis de santé mentale. Il faut en parler, parce que dans le football, faut pas que ce soit tabou. Il a eu des gros soucis de ce côté-là. Apparemment, ça va beaucoup mieux. Et Pierre Sage comptait énormément sur lui, et il n'est pas innocent aussi au fait que ça aille mieux. Donc c'est quelque chose de très bien, et je pense que voilà, comme je disais, cette victoire en Coupe de France est très importante pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais, pour la suite de la saison et même pour plus.
Allez, Tariq, qui poursuit avant de retrouver Vivien Nasser.
Moi, c'était vraiment ça. C'était ce discours-là là, qui a le de faire tourner. En plus, sachant que t'as la disparition de la Coupe de la Ligue, t'as les 5 changements.
Ouais.
T'as plus de prolongation en Coupe de France, donc t'as vraiment de quoi faire. T'as de quoi mettre une bonne équipe, une équipe type pour aller le plus loin possible. Et moi, vraiment, ce discours-là, j'ai de plus en plus de mal. Et j'ai l'impression que c'est un discours franco-français qu'on entend que ici, ce discours de oui, il faut jouer. Ils ont l'excuse du maintien. T'en as, ils ont l'excuse de la Coupe d'Europe. T'en as, ils ont l'excuse de jouer les compétitions européennes. T'en as, ils ont l'excuse de jouer les 3 premières places. Donc moi, c'est vraiment le discours ambiant en France où j'ai vraiment, vraiment du mal. Mais en tout cas, je suis content de retrouver cette Coupe de France.
Ouais. On t'écoute, Vivien.
Ce que je partage de Tariq, c'est notamment, je trouve que les entraîneurs, globalement, je les trouvais tous un peu très frileux. Même par exemple, on parlera tout à l'heure de PSG Brest. J'ai même l'impression qu'Eric Roy, par exemple, limite, il est presque prêt à faire tourner, alors que c'est peut-être l'année ou jamais pour même taper le PSG au Parc des Princes. Ou au moins, il faut rappeler aussi aux auditeurs que maintenant, avec la règle des pénalties des 90 minutes, ça peut aller très très vite. Donc là, on a une Coupe de France où les 3 premiers de la Ligue 1 sont encore en compétition. Moi, j'attends que ces équipes-là soient assez ambitieuses. Bien sûr, demain, il y aura cette confrontation entre le PSG et Brest. Et puis après, il y a certains matchs aussi que j'attends un petit peu de voir. Rouen-Monaco, le petit poussin Saint-Priest, j'attends de voir ce qu'ils pourront faire contre Valenciennes. Alors, Saint-Priest, c'est une bonne équipe de N3, alors milieu de tableau un petit peu dans leur poule, mais qui est capable de faire des sacrés coups, et même contre des gros de Ligue 1, enfin beaucoup de joueurs de qualité quand même, surtout devant, donc c'est assez intéressant. Puis après, pour ce soir, c'est là où je me dis qu'aller si Rennes à son niveau, je pense quand même que ce sera difficile pour les Lyonceaux, parce que surtout la prestation qu'ils ont fait contre l'OM, où malgré tout le seul défaut que j'ai trouvé, c'est qu'ils n'ont pas été assez tueurs, mais dans le jeu ils ont vraiment été supérieurs. Là, pour moi, Rennes, il faut rappeler leur dernière victoire date de 2019. Et moi, j'attends des Rennais qui soient aussi pareils, ambitieux, et essayant d'aller au moins dans le dernier carré, cette compétition.
Je rejoins Vivien. Pour le coup, hein, Rennes a clairement l'objectif d'aller dans le dernier carré, si ce n'est d'aller chercher au moins une finale de Coupe de France quand tu vois l'effectif. Et juste, là, si tu peux ajouter un petit peu, j'ai pas l'impression que ce soit un drama entre guillemets franco-français de vouloir faire tourner les effectifs. J'ai l'impression que quand je regarde aussi d'autres matchs de coupe par moment à l'étranger, ça fait tourner. Après, là où j'ai un souci et où je te rejoins pour le coup, c'est quand tu ne joues rien de spécial, que tu es dans le ventre mou ou que tu joues pas de compétition européenne et que tu n'as pas d'intérêt à faire tourner, que tu fasses tourner, là ça me pose un problème. Alors peut-être on peut me dire c'est pour la bonne ambiance dans le vestiaire, c'est pour que tout le monde ait l'impression de participer, on peut l'entendre, mais que tu changes 11 joueurs sur 11, pour moi c'est inaudible. Et là je te rejoins, je peux te rejoindre totalement.
On retrouve Nasser au 01 53 48 3000 avant de revenir avec tous les consultants autour de la table. Bonsoir Nasser, comment ça va?
Hey, bonsoir à tous, bonne affaire à tout et bonsoir mes chers amis.
Alors, Nasser, cette Coupe de France.
La Coupe de France, c'est magique. Coupe de France, c'est extraordinaire. La Coupe de France a toujours été un moment particulier parce que, déjà, pour moi-même, personnellement, c'est des souvenirs immenses. Déjà du côté de l'Olympique Lyonnais à l'époque où ils ont gagné plusieurs fois d'affilée la Coupe de France, mais aussi par rapport au Sporting Club de Bastia, je vous rappelle, en 81 quand ils ont remporté cette Coupe de France. Donc ça reste toujours un moment magique puisque cette Coupe a traversé toute la Corse et avait été cassée pour l'information. C'était très rigolo pour vous raconter un petit peu cette anecdote. En tout cas, la Coupe de France, oui, du côté de Lyon, effectivement, l'Olympique Lyonnais va continuer dans sa lancée après ce très bon résultat face à l'Olympique de Marseille. Et puis, vous l'avez pu le voir dans la presse encore, le Français Rayan Cherki a été critiqué. Et puis, on le voit, lui qui prétendait à une sélection en équipe de France. Bon, il y a encore du travail. Il pourra encore patienter avant de pouvoir rejoindre les Bleus ou une éventuelle sélection. Après, c'est vrai que l'affiche qui est très intéressante à suivre, surtout, c'est demain soir, parce que il y a un duo qui est très intéressant à suivre. C'est le Montpellier Hérault qui accueille l'OGC Nice, et puis bien sûr le Strasbourg, le Racing de Strasbourg qui accueille à domicile, à suivre aussi en direct demain.
Aussi.
Paris-Brest, parce que le Paris-Brest, ça serait la revanche de.
Ouais. En championnat.
Du match de championnat, mais j'ai bien peur que Brest cette fois-ci boit la tasse parce que le PSG aura cœur à faire de se rapprocher. Mais moi, la confrontation qui est intéressante, c'est vrai, c'est Lyon-Lille, le Strasbourg-Le Havre et Montpellier-Nice. Qui serait intéressant à suivre.
Merci Nasser, on va essayer de le garder avec nous Nasser pour revenir, c'est promis sur on va te reprendre Nasser de suite après la pause. D'ailleurs une petite info qui vient de tomber dans la journée, ça fait plaisir à Tariq et pas qu'à Tariq aussi, une nouvelle compétition qui va voir le jour dès cet été Vivien, il s'agira d'une Coupe du Monde Manji, composée de joueurs de plus de 35 ans, le tournoi comprendra les 8 nations qui ont été championnes du monde. On rappelle l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou encore l'Uruguay. L'occasion aussi entre autres de voir des joueurs tout comme Titi Henry, encore Mesut Özil, Ronaldinho, pourquoi pas l'Abi Céleste l'Argentin, Hernan Crespo.
Celui qui devrait jouer c'est Platini parce qu'il a
Platini,
ça fait des années qu'il attend sa première Coupe du Monde, ce serait le moment.
Mais je crois que ça va s'ouvrir aux autres aussi nations, en tout cas on l'espère, ça serait pas mal aussi de voir.
Quand je regarde les matchs
des autres joueurs aussi, il y en a pas mal.
Quand je regarde les matchs des légendes qui sont en été, etc., moi j'adore ça.
Ça fait kiffer. On verra bien. En tout cas, allez, rendez-vous après la première pause.
Time Foot spécial Cannes 2024 revient dans un instant. Beurre FM, 20h, 21h, Time Foot spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour ce mardi soir, on le rappelle, toujours en live avec nos consultants Benji de la partie avec Vivien et sans oublier Tariq à la réalisation. On peut retrouver Solal et sans oublier Nabil pour cette première sur Time Foot spécial Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ça joue dès demain avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, 18h et le match de 21h, Côte d'Ivoire, RDC. Allez, c'est parti.
Time Sport. La parole des sociaux.
Et voilà, c'est super. Ah, Nabil aussi, ça se voit qu'il a été à bonne école avec les coachs onéros, C'est ça, ça va à 200 000. Des passes à l'aveugle et aussi des jingles qui vient à tout va. Justement, le match de demain, le Nigeria face à l'Afrique du Sud. Demain, 18h. Vivien, le premier match. Avant d'aborder aussi la Côte d'Ivoire face à la RDC Congo,
Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces deux demi-finales, c'est que j'ai l'impression que, moi, je trouve que c'est presque les deux demi-finales parfaites. Pourquoi? Parce que je trouve que d'un côté, il y a les deux équipes qui pour moi ont le plus de certitude dans le jeu, ça va être Nigeria-Afrique du Sud. Alors pour rappel aux auditeurs, alors Nigeria, pour montrer à quel point je trouve que c'est un gros collectif, c'est que Osimhen par exemple il a mis qu'un seul but dans cette CAN. Alors quelqu'un par exemple qui n'aurait pas vu les matchs pourrait se dire ah mais c'est bizarre, on attendait qu'il mette but sur but, mais le nombre d'espaces qu'il libère, le nombre d'opportunités, enfin comment il est capable de se mettre au service de ce collectif. Et puis à l'Afrique du Sud, enfin clairement c'est comme si c'était les prolongements des Melody Sundowns, car parce qu'il y a quasi 80% de l'équipe qui est tirée de cette grosse équipe de la Ligue des Champions africaine. Voilà, un gardien qui a fait quelque chose d'assez historique dans les tirs au but. Donc, moi, j'attends vraiment une très belle opposition en termes de jeu. Et je pense qu'il y aura des entraîneurs qui seront pas frileux, qui auront pas peur de prendre des risques. Et dans les deux équipes aussi, il y a vraiment une grosse qualité de banc. Donc, franchement, on parlera de l'autre demi, mais moi, c'est la première fois où je serais incapable de faire un pronostic sur un des deux matchs.
Ah, carrément,
c'est ce que j'allais te demander.
Aussi,
pas sur les deux demi-finales les plus compliquées à pronostiquer, parce que franchement c'est
toi tu le penses,
parce que entre les oppositions,
on va voir si Nasser le pense aussi.
Les oppositions de style des deux équipes, après on parlera tout à l'heure de l'autre demi-finale, mais c'est très complexe parce que t'as le Nigeria qui a un style de jeu qui pour moi personnellement qui va
Nino, il a pas le mot. On va le retrouver.
Le style de jeu qui
le style de jeu. Il a perdu le fil. Ça fait, on va revenir à Tariq. Benji, on va revenir à Tariq. On parlait de ces matchs justement qu'on pourrait pas pronostiquer, qu'on n'avait pas pronostiqué aussi concernant ces deux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.
C'est vrai. Et là où je vais rejoindre Vivien, c'est que je suis totalement d'accord avec le fait où t'as les deux demi-finales qui sont d'un côté celles où t'as plus de certitude et l'autre côté deux équipes qui ont été très poussifs dans leur approche de cette CAN, dans le sens où je pense que c'est pas faire offense à la RDC d'expliquer que c'est une équipe qui a quand même mis longtemps avant de gagner un match de football dans cette CAN, et c'est un fait. Ils sont passés au tir au but lors des phases de poule, ils ont fait 3 matchs nuls si je dis pas de bêtises, et donc ça a quand même été assez poussif. Mais c'est au final, quand tu regardes leur approche dans le jeu, quand tu regardes ce qu'ils font sur le terrain, c'est amplement mérité pour cette équipe de la RDC. Et la Côte d'Ivoire, bah c'est assez impressionnant, et j'ai rarement vu ça dans une compétition internationale, cette capacité à être au fond du trou à chaque fois. À chaque fois tu les enterres et à chaque fois ils reviennent, et ils reviennent pour venir par tuer le match, que ce soit en phase de poule où ils terminent en tant que pire troisième qualifié, et lors de leur huitième de finale où ça passe au tir au but, contre le Sénégal, et où finalement ils arrivent à se qualifier dans un match complètement fou face au Mali, où en inscrivant un but à la 95e et un but à la 120e. Donc non, ça va être vraiment deux très belles rencontres, et je suis très content de mon côté de voir cette équipe du Nigeria, dans le sens où c'est une équipe que j'attendais énormément.
On mettait pas une pièce dessus, hein.
Bah, souviens-toi, Bilou, quand on avait parlé des pronostics de la CAN, j'avais dit que c'était mes favoris, et que je voyais vraiment le Nigeria être capable de venir jouer les troubles faites dans ceux qu'on attendait comme les favoris, qui étaient à l'époque le Maroc et le Sénégal, lors de cette CAN. Et je suis très content de les voir réaliser une telle performance, en sachant que, pour le rappeler, qu'ils ont quand même perdu l'un de leurs attaquants phares qui est Victor Boniface. Donc Victor, non, c'est pas Victor, c'est Boniface, mais c'est pas Victor son prénom.
Tu veux dire Pascal? C'est le géopoliticien. Avec Boniface, je confonds avec le politicien, c'est Boniface, mais pareil, on voit qui c'est.
C'est Boniface, mais j'ai dit Victor parce que Victor Osimhen, bien évidemment. Ouais. Donc très très hâte de voir ces deux équipes et de voir cette grosse attaque du Nigeria face à une défense de l'Afrique du Sud qui est très solide et emmenée par son gardien absolument étincelant, qui est sûrement le meilleur gardien de la compétition depuis le début.
On l'écoute.
C'était l'opposition de style.
Oui,
voilà. D'accord, okay. L'opposition de style entre les deux sélections, et c'est vraiment ça qui me fait ressentir cette complexité à vraiment analyser et pronostiquer le potentiel finaliste de cette Coupe d'Afrique. Et je suis impatient de voir ça. Et moi, surtout, ce qui m'impressionne avec l'Afrique du Sud, en fait, c'est qu'on les sent vraiment sereins, en fait. Dans ce style-là, vraiment assez défensif, on a l'impression qu'ils ont un gardien. Il peut rien lui arriver, il est tellement serein. Moi j'ai rarement vu. Je sais pas si face au Cap-Vert c'est les Cap-Verdiens qui ont mal tiré les pénaltys ou c'est lui qui a été exceptionnel, mais en fait il a tellement été serein lors de cette séance, et même après contre le Maroc et lors du match contre le Cap-Vert. Donc je suis vraiment impatient, moi, de voir cette opposition de style, mais je serais incapable de dire quelle équipe est favori. Et la même chose pour la Côte d'Ivoire. Ils reviennent de nulle part, reviennent de l'enfer, et ça va être vraiment aussi une opposition de style entre les deux équipes.
On va voir ça, Tariq, parce que Nasser aussi aimerait réagir avec vous, messieurs.
Et c'est bien Victor son prénom à Boniface, hein, je me permets.
Nasser, on l'écoute.
Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de me contredire ce soir, parce que la Coupe d'Afrique, c'est à suivre demain soir, mais c'est cette affiche entre la Côte d'Ivoire et puis cette équipe de la RDC, car je suis fan de cette équipe de la RDC. Je l'ai dit depuis le départ, et tu le sais, Bilal, que j'ai un petit faible pour cette équipe, et je savais qu'elle allait créer cette surprise, et c'est pas fini, parce que ça va peut-être être le match le plus intense de cette Coupe d'Afrique des Nations demain soir. Un affrontement un petit peu, pas inédit, mais une revanche aussi, parce que la RDC avait perdu en 2015, je vous le rappelle, en demi-finale, face à la Côte d'Ivoire sur le score de 3-1, 7 ans donc qui se sont séparés. Et il faudra donc pour la RDC vouloir prendre une revanche, et c'est pour cette raison que ce match est à suivre. Bien sûr, ça va être, on va se régaler, j'en suis sûr qu'on va se régaler. Alors moi j'ai un faible pour la RDC, pour Bakambu, pour toute cette équipe, pour Kakuta, pour tous ces joueurs phares qui ont évolué dans ce championnat de France de Ligue 1, mais la Côte d'Ivoire reste aussi un grand éléphant à domicile à Abidjan devant son public. Mais je voudrais bien qu'il y ait une surprise demain soir pour la RDC. Concernant l'Afrique du Sud, je vous rappelle que l'Afrique du Sud a entamé sa Coupe d'Afrique sérieusement, et qui sera à Alger au mois de mars prochain pour affronter la sélection algérienne. Pour tous ceux ou celles qui nous écoutent, ça reste un gros morceau, et pourquoi pas jusqu'au sacre final.
Allez, 3 des 4 et 3 équipes sur les 4, on va dire, qui ont le mieux travaillé, qui sont récompensées en fait tout simplement. Je trouve que la RDC dans leur approche et dans la préparation de cette CAN a été absolument excellente. On voit que sur le terrain, chaque joueur sait ce qu'il a à faire, que ce soit les CAD ou que ce soit les joueurs qui sont là pour faire les liens entre la défense et l'attaque et qui sont plus là pour combler les errances que certains cadres peuvent se permettre de prendre. Et donc je suis très content de voir cette équipe du RDC, je trouve que c'est amplement mérité par rapport à ce qu'ils ont fait. Et de l'autre côté, voilà, l'Afrique du Sud, on n'a pas cessé de le dire, c'est une équipe qui a cette capacité, un peu ce qu'on attendait du côté du Maroc, cette capacité de pouvoir aussi bien avoir un bloc légèrement plus bas en infligeant un énorme pressing à l'équipe adverse pour contre-attaquer et être très tranchant avec ses attaquants, comme pouvoir être capable de prendre le ballon et de manier le jeu et de diriger les débats. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très impressionnant pour une équipe qui est encore jeune et qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et de l'autre côté, évidemment, le Nigeria, qui était peut-être ceux qu'on attendait le plus et qui montre aussi qu'ils ont un collectif au-delà de leur star, comme le disait très bien comme tu disais Vivien tout à l'heure très bien, Osimhen, qui est capable de se mettre totalement à la vote du collectif, qu'on attendait Osimhen, comme le goléador de l'équipe, mais qui au final crée énormément d'espace, crée énormément de troubles dans la défense, dans les défenses adverses, et ça en fait une attaque absolument redoutable, où les défenseurs sont fixés sur Osimhen. Il concentre énormément d'attention quand il a le ballon et quand il ne l'a pas, et ce qui libère beaucoup d'espace, notamment pour Lookman, qui fait une CAN aussi absolument fantastique.
Ouais, Nasser, on te retrouve. Avant de retrouver,
question à poser à Nasser.
Vas-y. Et surtout avant que je retourne vers l'aéroport, parce que on sait jamais que Florian Maurice, on sait jamais, il risque de venir sur Rome. Donc
c'est vrai. Nasser, il faut inviter tout le monde. Il faut inviter tout le monde si Florian Maurice débarque à Rome. Hein. C'est ça. Hein.
Ah bah tu le sais que là c'est la piste aux étoiles. S'il déboule à Rome, c'est Time Sport Beurre FM mais sur le banc de touche.
Hein. Ah bah voilà. ça sera Nasser qui sera sur le banc de touche. Nasser, il a une réaction. C'est Tariq, Nasser.
Nasser, c'est Tariq. Ça va?
Oui, Tariq. Oui, ça va très bien.
J'ai une question pour toi. Est-ce que toi tu repartirais, parce que à l'image de d'Osimhen, est-ce que toi tu repartirais pour les demi-finales avec un Bakambu? Parce que je sais que ça fait énormément débat chez les supporters de la RDC, de savoir s'il faut le remettre en tant que titulaire ou pas. T'en as certains qui disent justement qu'il te fatigue un petit peu les défenses, qu'il crée aussi des espaces, et ce qui te permet après par la suite de faire tourner. Et t'en as d'autres qui disent que finalement il y a mieux sur le banc et qu'il apporte pas assez, même si c'est un cadre, il apporte pas assez sur le terrain.
Après, pour rebondir sur ce que tu dis, le problème c'est que Kambou a une expérience. Alors il est âgé de 33 ans, je crois, de mémoire. C'est quelqu'un qui a une grosse expérience, qui a quand même à son équipe. Après, oui, c'est le débat. Est-ce qu'il a pas... Moi, je sais pour quelle raison ça parle beaucoup au pays. C'est surtout par rapport à son pénalty qu'il avait raté. Vous rappelez. Mais bon, il y a d'autres joueurs qui peuvent faire l'affaire. Je pense notamment à Mayele. Je pense à Banza. Il y a d'autres joueurs. Il y a le petit jeune Elia qui a 26 ans qui pourrait éventuellement aussi rendre service à cette équipe de la RDC. Voilà. Moi, j'ai bien l'impression que cette RDC, depuis le départ, je vous le dis, depuis le départ, je crois, je l'ai dit à Vivien aussi ou à Alison, c'est une équipe qui me plaît dans son combat. Et par rapport aux équipes maghrébines, je trouve quand même que ces équipes, je les sens concernées, je les sens vraiment jouer pour leur patrie, pour leur maillot, et ça fait vraiment plaisir. Par rapport à ce que j'ai pu voir, par rapport avec la sélection algérienne, j'ai été très déçu des équipes maghrébines cette année, et c'est pour ça que je me régale à les regarder. Que ce soit les RDC, que ce soit l'Afrique du Sud avec peu de moyens, ils sont là, ils sont au rendez-vous et ça fait plaisir pour le football africain parce que c'est l'avenir aussi. On prépare la Coupe du Monde en 2026.
Eh ben voilà, Nasser, c'est Chekib, de Chekib Match qui dit Nasser, met le feu comme chaque soir sur l'antenne de Beurre FM.
Parce que en plus cet après-midi, vous le savez, Bilal, on était, Time Sport était à l'entraînement, parce que je vais vous laisser, parce que demain il faudra retourner au centre d'entraînement pour essayer de
faire
les moindres petites infos concernant la venue éventuelle du directeur sportif Florian Maurice. Ça parle beaucoup dans la presse italienne. Ça parle beaucoup de Florian Maurice, et on espère, parce que si, et l'information c'est que si Florian Maurice vient, attention, il viendrait peut-être pas les mains vides l'année prochaine, parce que Daniele De Rossi a quand même un parcours un petit, pour le moment tout va bien, Madame la Marquise, mais il a un programme très alléchant qui l'attend ce week-end, avec un AS Roma au stade Olimpico. face à l'Inter de Milan.
Eh ben, les internationales des Milanais, ouais. Ah ben, ça va être très très chaud. Ah ben, ça c'est
et
sûr.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée, mes chers amis.
Une très belle soirée, Nasser. Un grand merci, Nasser, d'avoir été avec nous.
Voilà,
merci.
Ciao.
Voilà, ciao Nasser. Ciao. Si vous voulez, même, il n'y a pas de problème, Nasser. Ouais. Vivien, ça te fait sourire et réagir aussi.
Oui, si on prend aussi de la hauteur, parce qu'on a beaucoup parlé des joueurs, moi, ce qui me fait plaisir, c'est vraiment de voir des entraîneurs un petit peu différents mis en lumière. Alors, c'est la Coupe du Monde où Aldrich Gragui a été mis en avant de façon méritée. Là, ça peut être Sébastien Desabre. Alors, certains commencent déjà à mettre les surnoms, nouveau Hervé Renard. Moi, je suis pas trop fan de ça. Moi, je pense que c'est Sébastien Desabre. Comme par exemple Hugo Broos aussi, je pense qu'il fait un excellent travail. Donc, cette guerre tactique des entraîneurs, j'attends de voir. Et allez, malgré tout, même si on s'est pas trop mouillé, j'ai l'impression, moi, que le Nigeria est peut-être légèrement favori parmi les quatre pour moi.
Ouais,
parce que t'as quand même l'arme fatale. D'ailleurs, c'était confirmé qu'il jouera demain aux Imen. Il avait quelques douleurs aux abdos. Bon, ça arrive. Hein. Parfois, je comprends ce que c'est. Vraiment, qu'on a trop d'abdos. Voilà. Les auditeurs qui ont les six-packs, ils comprendront ce que c'est. Ça arrive parfois que d'avoir des douleurs.
Tout le monde, d'ailleurs, un six-pack, mais six-packs de bière.
Voilà, c'est ça, exactement. Ça. Donc, les auditeurs qui ont des abdos comprendront ce que c'est. Mais non, plus sérieusement. Donc, non, mais ça va vraiment être des belles oppositions. Et après, oui, sur la Côte d'Ivoire, on en a un petit peu moins parlé.
Côte d'Ivoire, RDC.
C'est vrai que le sélectionneur, il a eu raison de remettre certains cadres. Mais par exemple, je prends un cadre comme Gradel, moi, que j'aime bien. Pour rappel, il a plus de 100 sélections et qui était vraiment, pour moi, même une légende ivoirienne du football, du sport, presque même une légende africaine. On ne sait pas, peut-être que demain, il va sortir un grand match, mais peut-être qu'aussi, avec l'intensité congolaise, ça peut être. Donc c'est là où bizarrement, le seul point j'étais un peu en désaccord avec Nasser, c'est que lui, il voyait le deuxième match comme l'affiche la plus intéressante et moi je vois plutôt la première.
La première.
Je me dis surtout que si la Côte d'Ivoire démarre aussi mal que bon dans le quart, attention.
C'est ça. En fait, attention, la RDC
peut très vite même mener 1 ou 2-0. Ils reviennent, ils auront peut-être pas toujours un retour comme ça.
Ouais, ils ont peut-être pas à chaque fois ce mélange entre réussite et talent qui fait que ils s'en sortent à chaque fois en fait entre guillemets la Côte d'Ivoire, parce que dans le jeu quand tu les regardes jouer depuis le début de cette CAN, ça reste quand même assez triste dans l'ensemble, mis à part des bonnes petites périodes. En fait, c'est par période. Mmh. C'est une équipe qui n'est pas constante, contrairement peut-être aux trois autres équipes qui sont en face d'elle. C'est pour ça que sur le papier, tu as envie de les mettre favoris. Mmh. Mais dans les faits, quand t'as regardé les matchs et quand tu analyses ce qui se passe autour, bah en fait, tu te dis que c'est peut-être l'équipe la plus faible et l'équipe qui a le moins montré depuis le début de cette CAN et qui est la moins bonne dans le jeu parmi les quatre autres équipes. Donc ouais, j'ai l'intime conviction qu'on va avoir cette équipe de RDC peut-être réussir à faire l'exploit de se hisser en finale. Je dis exploit parce qu'évidemment ils n'étaient pas attendus à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui était attendu dans cette CAN? Et c'est aussi ça qui fait qu'on a une CAN absolument fantastique.
C'est ça le charme aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations, oui.
Ouais, après c'est ça. Alors, le truc, c'est qu'avec les matchs de la Côte d'Ivoire aussi, c'est avec des scénarios toujours spectaculaires et poussés.
C'est vrai.
Être poussé par le public, être à domicile. Moi, pour moi, c'est pour ça que je pense que ça va être compliqué pour la RDC. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est s'ils ouvrent le score, ils sont tellement solides défensivement, la RDC, que ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, pour moi, si je devrais émettre un pronostic, il y a un léger avantage pour les Ivoiriens. Parce que moi, ce truc-là de revenir de nulle part, vraiment, je pense que, comme on l'avait dit avec la Coupe de France, ça forge un groupe et ça forge un caractère. Et ce truc-là, je pense que les Ivoiriens, ils ont énormément de chance d'en être là par rapport aussi à ces scénarios complètement dingues. Parce que cette Coupe d'Afrique, pour moi, s'il y a un truc qu'il faut ressortir, c'est les scénarios complètement dingues des matchs.
Allez, des scénarios complètement dingues. On va en avoir aussi autre que la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. On en aura peut-être dès ce soir en Coupe de France et dès demain avec ce fameux Paris-Brest. Et oui, Kylian Mbappé et toute son équipe. À de suite.
Time Foot spécial CAN 2024 revient dans un instant. Beurre FM, 20h, 21h. Time Foot spécial CAN 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, on est en live 20h36 pour cette dernière partie de l'émission avec, allez, sur le plateau, on peut retrouver Tariq, Benji, sans oublier Vivien, la réalisation, c'est Nabil. Et son confrère aussi, allez, c'est qui n'est autre que Solal à la réalisation. Le 0153483000, c'est le numéro du standard pour réagir, tout comme Nasser ou encore même Achille et Juba. Place au Paris Saint-Germain.
Time Sport, le mode pressing.
C'est le Paris Saint-Germain qui rencontrera donc Brest dès demain. Peut-être un remake de ce qu'on a pu entrevoir sur ce championnat qu'est la Ligue 1 Uber Eats. Demain, 21h10. Donc, 8e de finale, les Parisiens de Luis Enrique face aux Bressois.
Ouais, bah j'espère qu'on verra un autre visage du Paris Saint-Germain que celui qu'on a vu lors du match de championnat où les hommes des Rétrois avaient vraiment réussi à tenir tête à ce Paris Saint-Germain. Et comme on a pu l'évoquer tout à l'heure quand on parlait de la Coupe de France, ça va dépendre aussi des compositions qu'on aura sur le terrain. Si on se retrouve avec un Paris Saint-Germain qui fait tourner une équipe de Brest qui met l'équipe type, il y a peut-être moyen de pouvoir espérer quelque chose. Mais si du côté de Brest, ça fait tourner également, ça risque de tout de suite être compliqué. Ça dépend dans quelle optique les entraîneurs vont aborder la rencontre. Forcément, c'est sur le papier, quand tu regardes la rencontre, tu te dis que le Paris Saint-Germain s'est fait avoir une fois. Avec l'expérience qu'ils ont maintenant, que ce soit en championnat, en Coupe de France ou avec les compétitions européennes, avec les joueurs qu'ils auront sur le terrain et avec l'entraîneur qu'ils ont dans leur rang, tu peux te faire avoir une fois, mais tu peux pas te faire avoir deux fois face à Brest à deux semaines de suite. Encore une fois, ça va dépendre de l'optique et enfin de la composition qu'il y aura sur le terrain. Selon moi, on a un Paris Saint-Germain qui va être ultra favori, un Paris Saint-Germain qui a pour ambition de tout rafler. Tout raflé en France, donc ça commence par cette victoire à Brest qui va pas être un match facile évidemment hein, parce que quand t'affrontes une équipe d'Éric-Croix ça va jamais être un match facile et ça je pense que toutes les équipes de Ligue 1 le savent et notamment quand on joue ce Brest là qui depuis le début de saison est absolument étincelant.
Tariq, avant de retrouver Achille au 01 53 48 3000,
surtout ce que j'attends demain du match du Paris Saint-Germain avant l'échéance du 8e de finale contre la Real Sociedad, c'est surtout du jeu et des certitudes dans le jeu, en fait. C'est ce que j'ai envie de retrouver parce que ces derniers temps, et même le dernier match contre Strasbourg, en fait, c'est pas possible pour une équipe qui ambitionne d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions de subir autant d'occasions. Mais je parle pas que de Strasbourg, hein, je parle même contre Metz. Et depuis un petit moment, en fait, je trouve que cette équipe concède énormément d'occasions. Ils ont eu de la chance, peut-être, parce que sur le dernier match de championnat, t'as eu des Strasbourgeois qui étaient vraiment maladroits. Mais moi, ça m'inquiète vraiment, vraiment à l'aube de ce 8e de finale. Et demain, j'espère vraiment qu'ils vont prendre le match sérieusement et qu'on va enfin voir quand même un minimum de certitude dans le jeu parce que moi c'est j'ai plus en plus de mal avec ce que met en place l'entraîneur, ce que met en place Luis Enrique. J'y comprends de moins en moins de choses sur ce qu'il met en place.
Allez, carrément, ben ça on va voir si lui il a compris parce qu'il suit de près le Paris Saint-Germain et aussi son entraîneur. On attend presque à chaque fois, à chaque conférence, sa question, sa fameuse question, c'est Achille. Bonsoir Achille, comment ça va?
Bonsoir, j'espère que vous allez bien.
Bonsoir Achille. Ça va très très bien Achille, tranquillement, le oui. PSG face à Brest, dès demain, 8e de finale Coupe de France.
Oui, c'est un match très important. Alors contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, il alignera l'équipe la plus compétitive possible. Le turnover, il y en aura très peu, à mon sens. Ce match-là est considéré comme une finale pour lui, étant donné que si tu ne le gagnes pas, tu es éliminé de la compétition et c'est donc un trophée de moi pour la fin de la saison. Désolé pour j'ai mon Google Home qui s'est activé.
Alors.
Et au-delà de ça, c'est important d'avoir, et comme l'a bien dit Tariq, de retrouver un certain nombre de certitudes. Et c'est très bien parce que le PSG va bénéficier de plusieurs retours, notamment celui d'Achraf Hakimi qui est revenu ce matin à l'entraînement. Dans les prochaines heures, on devrait aussi également retrouver Lee et peut-être la meilleure nouvelle depuis plusieurs semaines, le retour et la montée en puissance de Nuno Mendes dans l'effectif parisien. Donc a priori on devrait retrouver une composition d'équipe assez et très compétitive. D'après ce que nos confrères du Parisien ont indiqué, on devrait retrouver Navas dans les buts. Moukielé qui devrait débuter, d'après ce que nos confrères du Parisien indiquent, hein, au poste de latéral gauche. En défense centrale, on aurait donc Marquinhos et Danilo. Et Carlos Soler au poste de latéral droit. Et un milieu de terrain qui serait composé de Zaïre Emery, Vitinha, Asensio. Et une attaque composée de Dembélé, Ramos et Kylian Mbappé.
Ça, donc, c'est la grosse équipe.
L'entraîneur prend très très au sérieux ce 8e de finale de la Coupe de France. Oui. D'autant plus que c'est contre le 4e de Ligue 1 et qu'il et c'est un club qui travaille très très bien et pour lequel il ne faut absolument pas sous-estimer auquel cas tu risques de perdre un titre. Et ça risquerait de très très mal passer auprès des supporters parisiens.
Achille, j'ai une question pour toi. T'as pas trouvé bizarre la réponse de Luis Enrique de dire que c'est une finale, sachant que c'est pas une finale, c'est un huitième de finale. Et moi, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai du mal avec sa communication. Ça reste un match contre Brest, c'est un huitième de finale, mais sa réponse de dire oui c'est une finale, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment et sa communication, moi je la trouve vraiment vraiment spéciale.
Ah non, moi je trouve que c'est important qu'il le dise, parce qu'il ne le dit pas dans le sens c'est une finale, c'est une finale, tu vas soulever un trophée. Il le dit que c'est un match couperet. Et donc dans une finale, tu dois te donner à 2000%. Autant d'habitude, tu te dois de te donner à 200%, même pas à 100, mais à 200%. Mais quand c'est un match couperet, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas te rattraper. D'où le terme de finale. Et l'importance du fait de remporter ces matchs-là. Et avoir de la consistance pendant 90 minutes et pas pendant 60 minutes ou 45 minutes, comme ça a pu être le cas il y a quelques semaines lorsque le Paris Saint-Germain affrontait ce même adversaire de Brest.
Pour toi, c'est pas un petit signe de fébrilité?
Non, absolument non.
Pas.
Non, absolument pas. Absolument pas. Non, absolument pas, parce que je te rappelle, tu sais, face à l'US Revel, il avait tenu le même discours. Hein, c'est un match coup près. Et pourtant, il y a quand même une différence de niveau assez importante et assez notoire pour que le constater. Donc, en ce qui concerne la Coupe de France, il la sous-estime pas, bien au contraire. Et je pense qu'il a bien pris conscience que ça va être un match qui va être encore plus difficile, parce que Brest va tenter de mettre encore plus d'ingrédients et va venir avec des certitudes qu'il n'avait peut-être pas lors de l'opposition en championnat.
Oui, Il y a peut-être, Achille, tu me diras ce que t'en penses, mais tu sais, Luis Enrique, il avait dit qu'en février, justement, le jeu sera un petit peu mieux. Et justement, si on se souvient même de sa première saison à l'époque du Barça, à partir de février, on avait eu beaucoup plus de stabilité dans le 11. Donc, est-ce que tu t'attends toi aussi à avoir peut-être plus de stabilité dans son 11? Je parle dans les grands matchs, notamment en Ligue des Champions. Est-ce que tu t'attends aussi à une amélioration dans le contenu? On parlait de la fébrilité défensive. Comment est-ce que tu vois, toi, la suite de la saison?
Oui. Moi, je pense que tu vas avoir un 11 type qui va se dégager, surtout avec le retour de Nuno Mendes. C'est lui la clé, en réalité. À compter du moment où Nuno Mendes sera de retour, l'animation de l'équipe au complet sera totalement différente. Et tu vas avoir un 11 qui devrait se dégager. Parce que là, je pense qu'en début de saison, on a quand même pu voir un milieu de terrain qui a relativement bien fonctionné. Quand tout le monde avait la tête à l'endroit, avec la triplette Warren, Ugarte, Vitinha, tu vas avoir un peu plus de vente à des certitudes, où tu sais que maintenant tu as Dembélé, Barcola et Kylian, les trois ça fonctionne bien devant, et derrière tu as Achraf qui est présent, qui fonctionne très bien, qui communique très bien avec Ousmane Dembélé, et tu vas avoir le repositionnement de Lucas Hernandez dans l'axe de la défense avec Marquinhos, ouais. Les deux n'attendent que ça. Hein. Les deux n'attendent que ça, les deux joueurs. Ouais. Ils n'attendent que ça. Et bien entendu, tu vas avoir le Nuno Mendes qui devrait intégrer le 11 de cette équipe. Et bien entendu, Donnarumma qui ne cesse de progresser jour après jour.
Merci Achille pour toutes ces informations. On va enchaîner avec d'autres auditeurs et on espère te retrouver rapidement, Achille. Voilà, sur l'antenne.
Cette
semaine. Eh ben, c'est super. Un grand merci à Achille, notre journaliste consultant. Allez, on va rebondir avec un autre journaliste consultant. C'est Jouba. Jouba, bonsoir. Et Jouba, il y a quoi? Tu prends
l'Israël? Bonsoir, messieurs. Très, très beau plateau, là. J'entends, il y a de belles choses qui se disent.
Alors.
Le plateau est très bon, donc c'est cool. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister avec vous, les gars, si vous me le permettez. Tout d'abord, c'est sur, quand il parle de finale, c'est vraiment d'un point de vue psychologique, parce que là, on est rentré dans le time over, enfin vraiment dans le moment où ça va chauffer, parce que une défaite là, en huitième de finale de Coupe de France, peut inscrire une dynamique totalement mauvaise pour le PSG. ce serait une catastrophe. Je pense que il faut pas minimiser, ça serait une catastrophe cataclysmique. Ça s'inscrirait dans une dynamique très négative, ce quand on sait que la Coupe de France n'est pas un objectif à proprement dit du PSG, c'est une évidence. La Coupe de France, la Ligue 1, ça s'inscrit dans les évidences du PSG. Donc psychologiquement, ça ferait mal. Ensuite, il y a un deuxième point, les gars, c'est sur le gardien de but. Enfin, on passe de Donnarumma à un autre. Il y a de l'instabilité. Je sais bien qu'il faut qu'il y ait des gardiens de coup, etc. Mais je pense qu'un gardien, c'est fait pour être maintenu. Moi, je me rappelle à l'époque où on couvrait le PSG avec Mickaël, là, qui est pas là, mais qui compte, ou même d'autres collègues qui sont dans l'émission. C'est moi, quand on zappait entre Buffon et entre je sais plus qui était là à l'époque. J'ai un trou de mémoire. Mais bref, il faut qu'il y ait un minimum de stabilité, selon moi, et que là. remettre l'ami du Costa Rica, ben ça peut, je sais pas, mais je pense que c'est pas un bon signal qui est envoyé à Donnarumma, donc voilà, je pense que ouais. Ça aussi c'est un point évident. Brest ensuite, ils les ont affrontés, il y a eu toute la mise en place technique qui a été abordée par Achille, donc ils doivent retrouver des automatismes, que ça soit avec le retour de Nuno Mendes ou Hakimi, mais je pense que avant tout, la pression qui est mise par Luis Enrique en parlant de finale, elle est d'abord psychologique. C'est-à-dire qu'il faut pas partir en terrain conquis. Faut pas se dire, ça y est, là, nous, les gars, on a, face à Brest, on les a battus en faisant un match, excusez-moi, pourri. On les a battus, donc on va repartir sur cette dynamique-là. Là, Luis Enrique leur met la pression. Il leur dit, c'est une finale. Et le public, je pense, ne leur pardonnerait pas une défaite en huitième de finale de Coupe de France. Encore une fois, il faut pas que le PSG oublie que la force du PSG, c'est pas les milliards du Qatar.
Ah ben bien sûr.
Les millions de supporters du PSG.
Ah bien sûr. Djouba, comme à ton habitude, tu le fais si bien. Mais c'est bien fait, Djouba. Très bon journaliste, Djouba. Hein. Et toujours ce petit zeste de géopolitique. Hein. Djouba, la semaine prochaine, il y a le 8e de Ligue des Champions. Hein. Faut pas l'oublier face à la Real Sociedad.
Ouais,
vas-y, viens, on va donner la parole à Tariq.
Djouba, t'as bien été au Parc des Princes ces dernières années. T'as bien mangé en VIP comme beaucoup de journalistes.
Ouais, toi aussi.
Tu sais que moi, le Parc des Princes. Je dis, c'est ma deuxième maison.
On va pas voilà.
Les masques tombent. Benji, pour réagir avec Djouba, qui reste avec nous.
Non, mais déjà, moi, je voulais revenir. On a beaucoup parlé de la communication de Luis Enrique. Je trouve que la communication autour de la finale est bonne. Dans le sens où ça te montre qu'il prend le match au sérieux, qu'il a envie de continuer dans cette équipe et que ce match va lui préparer, va l'aider à préparer ce huitième de finale face à la Real Sociedad et qui va lui permettre d'essayer de trouver des automatismes et de continuer à créer des liens entre ses joueurs. Donc non, je pense que l'approche est bonne et que ça te met une pression positive pour les joueurs en expliquant tout simplement que l'objectif, c'est la victoire en Coupe de France et que chaque match peut être la fin de l'aventure comme on l'a rappelé tout à l'heure. Maintenant, au bout de 90 minutes, c'est les pénaltys. Donc je pense que l'approche de la finale est très très bonne. Et là où je suis pas d'accord avec Djouba, c'est quand il parlait d'avoir un numéro 1 clair. Alors, dans le poste de gardien de but, moi je serais plutôt de l'avis contraire, dans le sens où pour moi on parle d'un poste clé maintenant dans le football moderne. On a beaucoup parlé que les grandes équipes avaient un grand numéro 9 et un grand gardien, et pour moi les grands joueurs aussi ça peut marcher avec de la concurrence, et où chaque gardien quand t'as de la concurrence dans les gardiens, pour moi ça permet justement que les gardiens peuvent tirer le meilleur l'un de l'autre et ne se reposent pas sur les lauriers. On a vu de très grandes équipes avec des gardiens qui étaient largement des gardiens numéro 1 qui ont fini par décliner, et que derrière le club n'est pas de la ressource nécessaire pour pouvoir enclencher derrière avec un autre gardien de but. Et je pense que voilà, c'est un poste où la concurrence est bonne et le fait que t'aies deux grands gardiens dans une grande équipe me paraît plutôt positif.
On termine avec Tariq.
Après, ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis des années. Même quand le Paris Saint-Germain n'avait pas deux grands gardiens, en général, le gardien numéro 2 jouait les coupes, que ce soit Coupe de la Ligue ou de la Coupe de France. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de débat entre les deux. Je pense qu'il n'y aura pas du tout. Il n'y a pas une histoire de concurrence. En plus, moi, je suis quelqu'un qui a critiqué énormément Donnarumma, mais je trouve que ses dernières sorties et ses derniers matchs, il est vraiment très bon. Il a sauvé pas mal le Paris Saint-Germain. Et par rapport au fait de cette histoire de communication sur la finale, pas finale, moi, j'arrive pas à l'entendre. Ça reste un huitième de finale, c'est pas une finale. Oui. Je peux entendre un discours comme ça quand il te reste trois matchs de championnat, t'es au coude à coude pour jouer un titre, je peux l'entendre. Mais là, c'est un huitième de finale de Coupe de France. Et si il veut nous montrer qui prend vraiment ce match-là au sérieux. Il faut arrêter d'inventer et de tenter des compositions d'équipe totalement farfelues. Quand tu mets un Warren Zaïre-Emery latéral droit, ou alors un Soler latéral droit, ou alors tout simplement ne pas faire jouer des joueurs à leur poste. Moi, j'ai plus cette impression-là que ces derniers temps, que ça soit en coupe ou que ça soit même en championnat, t'as un Luis Enrique, je trouve pour ma part, qui prend de haut un
Merci
petit peu la Ligue 1 et qui prend de haut un petit peu.
Pronostic Tariq, Sochaux face à Rennes. Le match vient de commencer depuis 5 minutes. Hein. Alors,
ouais.
Un prono.
Ouais, un prono. Ben, je vois les Rennes.
Les Rennes. Ouais, les Rennes. Remporter. Benji.
Ouais, un partout, victoire de Rennes au tir au but.
Allez, au tir au but, Benji, Vivien.
Bon, 2-0 pour Rennes.
2-0 pour Rennes, assez facile pour Vivien. Merci d'avoir été avec nous, chers auditrices et auditeurs, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux, hein, sur l'antenne.
Bon, bravo, réalisateur.
De Beurre FM, bravo à la réalisation.
Enfin, bien sûr. Ça t'arrache, ça te fait mal,
mais il va devoir faire beaucoup de confidences avec Vanessa, ça il ne sait pas encore. Quand il devra confier sa vie amoureuse avec Vanessa.
Mais justement, ça parle beaucoup d'amour aussi sur les antennes de chez nos confrères, on n'en dira pas plus. Vanessa qui arrive, 21h 23h, voilà, c'est confidence et nous on se retrouve dès demain, bye bye.
Retrouvez Time Food spécial Cannes 2024, tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.